Voilà, donc ça me fait très plaisir d'être présente ici. Alors, lorsque le cardinal de Bernis, ministre, donne ses instructions à l'évêque de Laon partant pour Rome en 1758, il affirme que le pouvoir des papes n'est plus, je cite, « qu'un grand nom et une décoration respectable ». Sous prétexte de craindre et de repousser les entreprises de Rome, on ne lui laisse plus de pouvoir que pour accorder des indulgences et pour dispenser des règles de droit et des usages établis par les canons et par la discipline de l'Église. Mais il ajoute immédiatement qu'il n'est rien de plus dangereux pour la papauté, mais aussi pour le pouvoir du roi, que cette évolution. Aux yeux de Bernice, l'équilibre gallican entre les deux puissances n'est plus assuré, et la conscience aiguë de ce risque, qui risque de retomber sur l'une comme sur l'autre, va guider ensuite sa conduite avec Rome. Nommé à son tour chargé des affaires du roi après le conclave, enfin, dans la foulée du conclave de 1769, il va donc lui falloir trouver un équilibre ardu entre soutien des maximes gallicanes et, donc, dans le contexte de la deuxième moitié du XVIIIe siècle, affaiblissement du Saint-Siège et respect suffisant accordé à un pontife dont les princes ont encore besoin, fût-ce paradoxalement pour les aider à justifier leur propre souveraineté. De fait, presque 20 ans plus tard, passé l'élection de Pie VI, passé l'élection des jésuites, le contexte européen a encore bien modifié la donne. La papauté, déjà affaiblie au milieu du siècle, subit de nouvelles attaques. Au gallicanisme, au jansénisme, succèdent mutatis mutandis les régalismes, les mouvements des réformes, compliquant singulièrement la tâche de Pie VI. Heureusement, je n'ai pas à craindre d'être pape, il ne m'aurait manqué que cela pour vivre et mourir esclave, écrivait Bernice à son secrétaire des aises au milieu de sa claustration du conclave de 1774. Ce colloque autour de la bulle Auctorem Fidei posait, et vous l'avez rappelé en introduction, la question d'une sorte de transition, non sans brutalité, entre anti-jansénisme, anti-régalisme, tant de l'unigénitus, tant de la crise moderniste. Alors, j'avoue que je suis plus familière du traitement assez vif réservé à la papauté par la France et ses diplomates en cour de Rome du temps d'unigénitus au pontificat de Benoît XIV. Mais j'ai cherché à comprendre, en particulier en lisant les dépêches envoyées par Bernice et d'ailleurs certaines autres correspondances, puisque vous le savez peut-être, hein, les archives Bernice ont ressurgi depuis quelques années. Donc j'ai cherché à comprendre quels pouvaient être les échos, les répliques, pour reprendre les mots des organisateurs, du séisme dit 1713 dans les événements liés au synode de Pistoia, mais aussi à quel point le contexte géopolitique, intellectuel, politique, pouvait conduire à des analyses différentes. J'ai donc choisi en fait une sorte d'observatoire en la personne du cardinal de Bernice, celui d'avant la Révolution, alors qu'il est encore officiellement chargé des affaires du roi à Rome. D'autres ici sont bien mieux placés que moi pour aborder les temps révolutionnaires à proprement parler, et je resterai donc, si vous le permettez, sur le seuil, voire dans l'antichambre de la Révolution, en centrant mon propos sur les dépêches envoyées par Bernice à Vergennes, puis à Montmorin, en 1787, année qui suit donc juste le synode de Pistoia, mais voit également d'autres signes d'un changement de regard sur le pontife en Europe. J'ai gardé, comme vous sans doute, en mémoire les dernières pages du fameux article de Bruno Neveu sur le pontificat romain, où il s'arrête lui-même un peu sur ce seuil, en osant penser, pendant une page et demie, l'évolution de la papauté sans la Révolution. Il ne s'agit, rassurez-vous, que d'une courte halte, mais l'observation, me semble-t-il, n'est pas sans intérêt. C'est un moment particulier, un peu en suspens, entre le synode de Pistoia lui-même, dont les suites sont en cours en 1787 avec la réunion des évêques de Toscane, et le moment où le cardinal chargé des affaires du roi se verra écarté des affaires officielles par la Révolution. Un moment où il offre à son ministre, ses ministres, toute la force de sa vision des équilibres politico-ecclésiastiques et de la place de la papauté en Italie et plus généralement en Europe. Un moment enfin où il est encore en mesure d'espérer que la France puisse intervenir, puisse retrouver sa place de fille aînée de l'Église, soutien du souverain et du pontife. C'est un moment donc où, me semble-t-il, on peut chercher à analyser en quoi cette situation d'affaiblissement du pouvoir pontifical est une suite logique ou bien répond à des équilibres nouveaux. Les réactions de Bernice sont bien différentes de celles de ses prédécesseurs face aux tentatives de Rome pour lutter contre le gallicanisme et le jansénisme en France même. Le contexte, hein, on l'a vu, n'est plus aussi franco-français. Il ne s'agit plus de lutter contre les maximes romaines envahissantes, de soutenir les libertés de l'Église gallicane, mais presque au contraire, on va le voir, de défendre les prérogatives d'un pape dont l'affaiblissement est désormais un immense danger. Ce que l'on lit dans les lettres de Bernice, c'est la fin d'un système, le déracinement d'un arbre, selon une métaphore qu'il emploie lui-même. Donc voilà les réflexions que je vous propose. Donc, nous verrons d'abord l'année 1787 et ses équilibres instables, équilibres politiques, équilibres ecclésiastiques, avant d'entamer un retour, mais alors impressionniste, hein, je ne vais pas tout faire, sur le siècle de l'unigénitus pour précisément tâcher de cerner les différences d'appréciation politique, toujours sous l'œil hein, d'un diplomate. Et puis enfin, s'il reste un petit peu de temps, mettre au jour ou esquisser tout de même des passerelles hein, théoriques et intellectuelles. Donc, premier point, l'année 1787 et la question des équilibres instables en Europe autour de la papauté. Je suis bien vieux, mais je voudrais l'être davantage. J'avoue que l'avenir me fait peur, écrit Bernice à son ministre en février 1787. Concentrons-nous sur trois événements qui correspondent à trois territoires, qui sont pendant des mois les lieux de tentatives de réforme, qu'il s'agisse de juridictionnalisme, d'ecclésiologie ou de théologie. Premier événement, fait que vous connaissez tous, c'est la question du livre de Hébel, Quid est Papa, qui a été imprimé à Vienne en 1782, et qui a été donc censuré par un bref qui date du 28 novembre 1786. Au début de l'année 1787, naturellement, le bref commence à circuler et Bernice se montre extrêmement inquiet des réactions de rejet que ce bref donc pontifical peut susciter. Il pense qu'une condamnation du Saint-Office aurait largement suffi, sans que le pape, écrit-il, descende lui-même dans l'arène, ce qui lui paraît tout à fait hors de propos et contre-productif, on y reviendra. Autre événement, autre territoire qui pose problème, c'est la question des dispenses de mariage dans l'Empire, hein, qui a déclenché, là encore selon Bernice, une réaction bien brusque du Saint-Siège. Les trois électeurs ecclésiastiques impériaux et l'archevêque de Salzbourg ont formé des plaintes contre la cour de Rome, alors qu'ils avaient eux-mêmes cherché à accorder des dispenses de mariage. Hein. Bon, je vous passe un petit peu l'affaire. Ça pose aussi la question du nonce, qu'ils finalement ont un petit peu envie de reconnaître comme un ministre ordinaire sans juridiction. Or, à ce moment-là, le nonce, c'est Paca. Hein. On reparlera peut-être par la suite, et que Bernice, à ce moment-là, qualifie de jeune homme, encore peu expérimenté. Le pape va, là encore, donner un bref pour soutenir la conduite du nonce de Cologne. Bref un peu vif, adressé à l'électeur de Cologne. Et là encore, Bernice juge cette action trop téméraire, trop forte, trop risquée, enfin, risquant trop de heurter. Il écrit au sujet du nonce à Cologne en février 1787, plusieurs archevêques d'Allemagne et plusieurs évêques de différents pays n'attendaient qu'une occasion de revendiquer des facultés qu'ils croient inhérentes à leur caractère épiscopal. Cette discussion, jointe à bien d'autres circonstances, prépare une crise en Allemagne et ailleurs, bien dangereuse pour la cour de Rome et très capable de troubler la paix et le bon gouvernement de l'Église. La crainte de Bernice est simple. Que plusieurs évêques se joignent à ceux qui ont réclamé la possibilité d'accorder eux-mêmes des dispenses et réduisent ainsi le pape à un vain nom, sans autre juridiction que celle qu'il exerce dans son diocèse de Rome et dans ses propres États. En somme, c'est l'organisation hiérarchique de l'Église qui est heurtée et le pape ne fait que jeter de l'huile sur le feu en répondant frontalement. Troisième zone de crise, si je puis dire, c'est bien sûr celui dont on va le plus parler ici, les suites du synode de Pistoia, avec précisément au printemps 1787 la réunion donc de l'Assemblée de Florence, les prélats sous la direction du commissaire du Grand-Duc, commissaire d'ailleurs que Bernice présente plutôt comme un homme raisonnable, nullement théologien et qui ne montre aucune partialité. Pour l'instant, si j'ai envie de dire, tout va bien en avril 1787, c'est-à-dire que Bernice écrit que le plus grand nombre de prélats résistent pour l'instant, mais les gazettes de Florence, elles, continuent à publier des critiques, des satires, tournant le pape en ridicule. Il s'attache particulièrement aux incidents qui vont émailler les débats et qui, selon les cas, l'effraient ou le rassurent. En réalité, il est tenu au courant de ce qui se passe à Florence directement par le secrétaire d'État, hein, le cardinal Boncompagni, qui n'hésite pas à lui adresser des notes envoyées par le nonce à Florence. Au mois d'avril 1787, il s'agit encore d'attendre et d'espérer que les choses se dénouent d'elles-mêmes, c'est-à-dire en fait que les évêques de Toscane désavouent d'eux-mêmes leurs collègues de Pistoia sans intervention du Saint-Siège. Dans ces trois situations, que je ne fais que survoler très rapidement, le constat est à peu près similaire. Attaqué dans son autorité et ses prérogatives, le pape doit mieux répondre. Le cardinal français est sans pitié. D'un côté, la cour de Rome n'est ni assez prudente, ni assez avisée, et de l'autre, les prétendus réformateurs s'élèvent contre les abus pour en profiter eux-mêmes ou se faire un nom. La question pour le diplomate français est de saisir toute l'ampleur d'une vaste crise globale dont ces moments de crispation sont des révélateurs. Il faut comprendre, écrit Bernice, il faut chercher à répondre. Et il se place aussi bien en conseiller du ministère français, d'autant que c'est le moment de la transition entre Vergennes et Montmorin, et également un petit peu en conseiller du pape et de son secrétaire d'État. Ce qu'il nous donne dans ses lettres, c'est finalement une vision ample, très politique, hein, de la situation. Il réagit, c'est pas étonnant de Bernice, il réagit en diplomate, en ministre, autant qu'en cardinal. Pour lui, c'est l'équilibre européen qui est en jeu. Un double équilibre politique et ecclésiastique. À d'inlassables reprises, il développe devant Vergennes, puis devant Montmorin, l'idée d'un véritable système européen et particulièrement italien, dont la papauté, telle qu'il la conçoit, est une pierre angulaire. Ainsi, le 18 avril 1787, c'est une double métaphore, celle des chaînes inextricables et celle de l'arbre enraciné qu'il convoque. Donc, je vous livre hein, les images imbriquées développées par Bernice. Donc, il écrit au ministre. « Vous avez trop de lumière pour ne pas faire une attention sérieuse à ce qui se passe en Allemagne et en Italie relativement à la cour de Rome et à la discipline généralement établie dans l'Église catholique, qu'on ne peut guère séparer de la religion même. Ce sont des anneaux qui forment la même chaîne et qui lient ensemble ce qu'il faut croire, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut respecter. On aurait grand tort d'imaginer qu'on peut traiter avec mépris le pontificat et le sacerdoce sans affaiblir la croyance et sans scandaliser, aigrir et faire murmurer les peuples. C'est un grand arbre, vénérable par son antiquité, dont les branches s'étendent trop loin et dont les racines profondes ne peuvent s'arracher que par les secousses les plus dangereuses. Vivons donc dans la croyance de nos pères, c'est le parti le plus sage, c'est aussi le plus glorieux et le plus utile pour la conservation des mœurs et la sûreté de l'obéissance des peuples. Il y a longtemps, monsieur, que je fais ces tristes réflexions et que je vois avec douleur que les progrès du mal sont si rapides qu'il sera très difficile de les arrêter sans exciter de grandes fermentations et des troubles dont l'histoire des trois derniers siècles ne nous fournit que trop d'exemples. Je crois au reste que ce serait s'abuser que d'espérer que la faiblesse de l'État que le pape possède en Italie puisse le garantir toute seule contre la force, la cupidité et d'anciennes prétentions qu'on ne sera pas en peine de faire valoir quand on sera assuré de la facilité de l'entreprise et lorsque des circonstances très probables en écarteront le danger. » Et là, Bernice fait en fait des comparaisons assez intéressantes. Il dit finalement ce qui s'est passé en Pologne. Hein, la Pologne a été démembrée parce qu'elle était faible. L'Empire ottoman, c'est pareil, touche à sa ruine parce qu'il s'affaiblit. Et en fait, il dresse un parallèle avec la situation de l'État pontifical. La vénération des souverains et le respect religieux des peuples, continue-t-il, pourraient seuls, sans autre secours, défendre bien longtemps encore le patrimoine de Saint-Pierre si l'une et l'autre n'avaient pas été considérablement affaiblies depuis le règne de Benoît XIV, dernière époque de la considération de la cour de Rome. Alors en fait, Bernice voit les choses ainsi. On a deux systèmes. Un système politique qui permet l'équilibre de l'Italie. Or, bousculé, réduit à sa juridiction sur Rome, moqué par l'Empire, par la Toscane, le pape pourrait perdre toute souveraineté temporelle face au régalisme. Je cite, « Ce système, s'il existe, peut se réaliser insensiblement. Bologne et Ferrare procureraient un grand arrondissement à la Lombardie autrichienne et la Toscane, de son côté, pourrait étendre sa domination sur les terres de l'Église si voisine des siennes. » Si ce projet, auquel bien des circonstances donnent à ce moment-là un air de vraisemblance, était mis en exécution, l'équilibre de l'Italie serait donc évidemment totalement rompu. Il insiste sur le fait que les possessions du pape, hein, pas vraiment à craindre pour ses voisins, sont le pivot, hein, l'intermédiaire indispensable entre Lombardie, Toscane, Royaume de Naples. Donc une balance, un système politique. L'autre balance est ecclésiastique et religieuse, et tient bien sûr à l'autorité pontificale. Il faut un chef à la religion catholique. Si ce chef est avili et méprisé, il ne sera plus chef que de nom. Le gouvernail s'échappe de ses mains. Et, écrit Bernice, il n'y a peut-être pas d'affaire plus majeure que celle-là si on examine bien la nature et les suites qu'elle doit avoir. Donc on peut dire que Bernice prend la mesure, hein, internationale, si je puis dire, de la situation à ce moment-là. Que faire ? Je vous ai dit que Bernice piquait de donner des conseils, donc effectivement, il cherche à répondre à cette situation. Sage observateur, mais également en tentant de remédier fort de sa connaissance ancienne des équilibres européens et de l'équilibre de la papauté. Il parle au secrétaire d'État, il parle au pape, évidemment, et il relate « Je représenterai toujours à sa sainteté et à son ministre que sans abandonner les droits légitimes, ils doivent soigneusement éviter de mettre en avant d'anciennes prétentions, toujours contestées, et qui fourniraient aujourd'hui aux ennemis du Saint-Siège des motifs ou des prétextes pour porter la cognée au tronc de ce grand arbre dont je parlais tout à l'heure et de n'en laisser subsister que les racines. La fermeté, unie à la prudence, sont les seules armes défensives dont le Saint-Siège puisse dans ces circonstances faire un usage utile. » Donc, le pape ne doit pas garder le silence, alors qu'il se dépouillait et attaquait sur les droits qu'il a depuis tant de siècles comme chef de l'Église. Mais en même temps, il est nécessaire d'éviter tout ce qui peut irriter encore plus. Tout ce qui peut, comme les brefs, hein, par exemple, à Cologne, ou le bref condamnant l'ouvrage « Quides Papa ». En réalité, et c'est peut-être un peu étonnant, Bernice se demande ce que la France peut faire. Alors, sur le terrain ecclésiastique, pas grand-chose, et il vaut mieux pas qu'elle s'en mêle. En revanche, il envisage sérieusement une intervention française sur le terrain politique, pour la défense des territoires de l'Église, selon son ancienne mission, hein, à vrai dire un peu oubliée. L'offre est si claire que le secrétaire d'État charge Bernice de remercier Montmorin et le roi pour cette offre. Sa sainteté, je cite, est pénétrée de reconnaissance et de joie en apprenant l'intérêt que le fils aîné de l'Église prend aux mots qui la déchirent. Sa sainteté regarderait comme un bienfait signalé de la Providence que la première monarchie du monde pût être encore disposée en cette occasion à être le secours et l'appui de la religion, de la primauté et de la doctrine de l'Église. Bien entendu, il ne s'agit pas de s'aventurer sur le terrain théologique. Bernice à quelques mots un peu rudes, c'est bien assez d'empêcher que de telles opérations théologiques arrivent en France. Déjà, évitons un colloque de Pistoia en France, ne nous aventurons pas là-dessus. Mais le pape serait ravi que le roi couvre de son égide les états de l'Église. Alors, naturellement, cette intervention reste assez hypothétique, elle n'est pas imminente. Mais le changement de ton est énorme Quand on pense à la période antérieure, avec les traités du milieu du siècle, où la France cherchait surtout à se dégager au maximum de cette responsabilité historique de soutien des États du Saint-Siège, suscitant d'ailleurs des plaintes lancinantes du Saint-Siège, qui le suppliait de défendre ses territoires, ou même sa suzeraineté. Nous avons toutes les années 30 des lettres justement du cardinal Corsini à Fleury. Donc, il faut à cet instant quitter un peu le contexte précis et revenir du coup un petit peu sur ce qui peut apparaître comme des changements par rapport à ce qui se produisait dans ce fameux siècle de l'unigénitus. Alors, évidemment, unigénitus, le jansénisme mêlé au gallicanisme, tout ceci a constitué la grande affaire de la diplomatie française en cour de Rome, et effectivement, on a eu l'occasion d'en parler lors du colloque sur le choc de l'unigénitus. L'opposition est assez claire, finalement, entre Maxime contre Maxime, Maxime romaine contre Maxime française, liberté de l'Église gallicane, etc. On vient d'en parler, donc je ne vais pas refaire la présentation. Les crises se sont succédées au gré des mandements épiscopaux, des brefs pontificaux, des différentes déclarations, pensons à celle de 1730, des crises jansénistes, évidemment. Tout ceci est plus ou moins aisé à régler en cour de Rome. Il y a eu des précédents de réponses pontificales et évidemment aux crises gallicanes, jansénistes, la bulle elle-même, mais ce n'est plus la question à ce moment-là. On peut citer les imprudences de papes finalement assez peu politiques, à l'image de Benoît XIII dans l'affaire de la légende de Grégoire VII, dans le sillage d'ailleurs du concile d'Embrun, qui exacerbe les tensions en un moment où peut-être aurait-il fallu plus d'apaisement. On peut dire qu'à ce moment-là, si Canossa n'était plus guère à l'ordre du jour que dans l'imagerie gallicane, l'exaltation publique de son héros en pleine crise parlementaire n'était pas forcément extrêmement judicieuse. Vous connaissez peut-être l'épisode tel qu'il est raconté par Voltaire, hein, un peu plus tard. On a donné depuis un beau titre à notre Grégoire, on l'a fait saint, du moins à Rome. Ce fut le fameux cardinal Coscia qui fit cette canonisation sous le pape Benoît XIII. On imprima même un office de saint Grégoire VII, dans lequel on dit que ce saint délivra les fidèles de la fidélité qu'ils avaient jurée à leur empereur. Plusieurs parlements du royaume voulurent faire brûler cette légende par les exécuteurs de leur haute justice, mais le nonce Bentivoglio, qui avait pour maîtresse une actrice de l'opéra qu'on appelait la Constitution, et qui avait de cette actrice une fille qu'on appelait la Légende, homme d'ailleurs fort aimable et de la meilleure compagnie, obtint du ministère qu'on se contenterait de condamner la Légende de Grégoire, de la supprimer et d'en rire. Donc ça, c'est l'article Grégoire VII du dictionnaire philosophique. Au fond, ce que l'on retrouve ici avec Piscis, c'est l'idée, s'il faut faire des comparaisons, c'est l'idée qu'un pape plus théologien que politique est au fond une assez mauvaise chose pour la papauté. On retrouve sous la plume de Bernice des reproches que l'on pouvait lire sous celle du cardinal de Polignac devant négocier au même moment l'accommodement du cardinal de Noailles avec Benoît XIII. Les plaintes sur les papes plus théologiens que politiques. Si, pour l'instant, Bernice loue la prudence du pape dans l'affaire de Pistoia, hein, pour l'instant, on est en 87, il a des mots très durs pour ce pontife qui se croit bon théologien. Et je vous rappelle qu'il a largement contribué à élire. Hein. Ainsi, sur le bref condamnant quid est papa, il vise le pape et Zacharia, dont on reparlera sans doute ici. Je crains que dans le bref justificatif que vient d'expédier le pape, la modération et la prudence ne règnent pas également partout. Sa sainteté en matière de doctrine emploie souvent des religieux enthousiastes de la puissance papale. J'ai apuré que le bref intitulé Quid est papa n'a pas été dressé d'après le plan du cardinal Gerdil, qui ménage les cours et l'épiscopat, ni même d'après le travail du père Mamaki, dominicain, maître du Sacré Palais. On soupçonne que c'est l'ex-jésuite Zacharia qui a été le principal rédacteur de ce bref. Cet ex-jésuite, ancien théologien de sa sainteté, qui connaît plus les livres que les règles de la prudence, et qui n'est pas toujours ni bon théologien ni bon logicien, a conservé trop de crédit auprès de sa sainteté qui le croit un bon homme. Un mois plus tard, il s'attaque au petit cercle de conseillers obscurs qui environnent le pape. Le pape, assis sur un écueil, battu continuellement par les flots, paraît tranquille sur la foi de ses théologiens et ne croit nullement les suites de la démarche imprudente de ses nonces. On pourrait appliquer à ces docteurs écrit Bernice, la parodie du psaume « In exitu ». Ils ont des yeux et ne voient pas, ils ont des oreilles et n'entendent pas, ils ont des nez et pas d'odorat, mais en revanche, ils ont des mains toujours prêtes à prendre la plume et à écrire hors de temps, hors d'à propos, toujours enivrés du pouvoir ancien de la cour de Rome, sans s'apercevoir que l'opinion, principal fondement de sa puissance, est presque entièrement changée. » Là, on a une constante, hein, dans le regard porté sur la personnalité même du souverain pontife. Un plaidoyer pour un pape plus politique que théologien. Le modèle est encore pour Bernice, c'est Benoît XIV. Alors, pourtant, il était théologien, hein, théologien, canoniste d'exception, mais il n'aurait jamais cédé sur les droits essentiels de l'Église, mais il savait distinguer l'essentiel et le négociable. Il savait se faire politique lorsqu'il le fallait. On pense, hein, je n'ai pas le temps de développer, à l'habileté sans doute de l'encyclique Ex Omnibus, qui n'est qu'une encyclique justement et pas une bulle, et qui met fin à l'affaire des billets de confession en 1756. Et c'est sans doute, hein, avec cet exemple-là, que Bernice en fait effectivement un modèle. Cependant, la façon d'aborder le problème de la place de la papauté du côté français est bien différente de ce qu'elle était dans la première moitié du siècle. Avec Fleury, on l'a vu, hein, je ne vais pas y revenir, ce que l'on cherche à obtenir du pape, c'est un silence respectueux. Trois ans après l'élection de Clément XII, en 1730, le cardinal Corsini, donc son neveu, se plaint de la façon dont Fleury traite Rome, en voulant empêcher le pape d'intervenir dans les affaires du royaume, fussent-elles religieuses. Hein, et les plaintes du cardinal Corsini sont toujours très, très lyriques. Hein. Dès le commencement du pontificat, monsieur le cardinal de Fleury m'a toujours marqué que quelques désavantages que paraissaient avoir la religion et l'épiscopat en France, il ne fallait point que le pape s'en mêlât, mais lui en laissa le soin. Cependant, donc, la consultation des avocats, les arrêts du Parlement et même les déclarations du roi inquiétaient fort ici les plus zélés. Le pape s'est toujours tenu en repos et a résisté aux conseils qu'on lui donnait. Évidemment, on l'a vu avec les avocats, la nouveauté, l'évolution du XVIIIe par rapport à la tradition gallicane, c'est cette combativité des laïcs, peut-être je ne rentre pas dans le débat, des avocats, du Parlement en général, et c'est celle-ci qui va constituer pour Rome une limite au-delà de laquelle il ne sera plus possible de rester silencieux. Si Rome a laissé passer la crise de 1730, elle n'a pas pu ne pas envoyer un bref publié deux ans après. Quand on remarqua, écrit Corsini, l'intelligence de la cour avec le Parlement. Nous ne pûmes pas dissimuler à monsieur le cardinal de Fleury l'inquiétude dans laquelle nous étions de voir les affaires de la religion entre les mains de deux ministres virés du Parlement. Alors l'ennemi c'est Chauvelin, hein, à ce moment-là. Donc à ce moment-là, le roi très chrétien ne pouvait guère risquer un conflit, comme Louis XIV, ni accepter les modalités d'intervention proposées par Rome. Le silence qu'en 1730 Fleury impose aux Français sur la question du unigenitus et des appels se trouve aussi celui qui demande au Saint-Siège et apparaît comme un choix politique lucide et durable, sinon spectaculaire. Or, évidemment, le contexte est complètement différent après 1758. Il y a déjà une rupture avec la mort de Benoît XIV, un déplacement des enjeux et des craintes pour ce lien si fort entre politique et religion, pour ce fameux arbre enraciné. Bernice revient dans ses mémoires sur ce qui est un pivot de sa pensée. Dans son esprit, plus rien n'est à craindre de Rome en réalité, mais tout serait à craindre de l'effacement complet du respect craintif que les peuples portent encore à l'autorité pontificale. L'autorité de l'Église, écrit le cardinal dans ses mémoires, n'est fondée extérieurement que sur l'opinion des esprits. Or, les esprits d'aujourd'hui ne sont que trop enclins à la discussion, on les a penchés vers l'incrédulité et l'on a mal fait. Car les lois humaines tirent leur principale force du respect religieux que l'on rend aux lois divines. La France n'a rien à craindre des évêques ni du chef de l'Église. Aujourd'hui, elle n'a à redouter que de voir leur autorité légitime méprisée, et c'est au roi, pour son propre avantage, à la maintenir et à la faire respecter. On ne trouve pas autre chose dans la dédicace du cardinal au roi pour la religion vengée. Vous savez, son ouvrage, son long poème lyrique, qui reparaît d'ailleurs hein, après Auctorem Fide, d'ailleurs, il me semble en 96, si je me souviens bien, il réapparaît après sa mort. Et je vous cite juste un petit extrait de la dédicace. « Sire, les peuples ne sont soumis aux rois qu'autant qu'ils sont soumis à Dieu, et les rois ne sont justes pour leur peuple qu'autant qu'ils reconnaissent une autorité suprême. » Bon, Les rois n'ont plus de trône. Alors, les Verts ne sont pas... Bon, la bouquetière, Bernice, est ce qu'elle est. Mais les rois n'ont plus de trône où Dieu n'a plus de temple. L'autorité succombe et l'homme impérieux ne reconnaît les rois que lorsqu'il craint les dieux. Que la religion qui soutient ta couronne reçoive de ton bras l'appui qu'elle te donne. Alors, en 1787, la vision est clairement politico-morale, cette fois. Il est d'expérience que les institutions civiles ne suffisent pas pour empêcher la dépravation des mœurs et le désordre des passions des hommes inclinés au vice. La religion est la digue la plus sûre contre la perversité humaine, rappelle à plusieurs reprises Bernice. Elle est l'appui le plus solide qu'on puisse donner aux lois politiques et à la saine morale. C'est ce qui lui fait écrire, au sujet de l'Assemblée des évêques réunis à Florence, qu'il espère que le grand-duc va enfin comprendre combien il est dangereux de blesser les opinions religieuses des peuples. Il est aussi choqué par un des incidents qui émaille la messe des Rameaux 1787 et que raconte le nonce à Florence, un extrait qu'il s'empresse de joindre à sa dépêche. Vous connaissez peut-être cette anecdote, au moment où la Passion est chantée dans une église du diocèse de Prato en langue vulgaire par un prêtre, un gentilhomme et un voiturier. Donc je cite, « Lorsqu'on fut au mot sitio, qui en langue vulgaire signifie j'ai soif, le voiturier répondit à voix sonore et avec la plus abominable irrévérence, « Attendez, je vais prendre bouteille. » Parmi les assistants, écrit Bernice, quelques-uns se mirent à rire, les autres frémirent d'horreur d'une telle profanation qui scandalisait tout le monde. Et on connaît tous les incidents qui ont émaillé cette période. Au fond, Bernice est beaucoup plus virulent dans sa défense des prérogatives pontificales qu'il n'était question de le faire auparavant en application des maximes gallicanes. On a vraiment une évolution. Alors, la dernière partie qui visait à voir un petit peu des généalogies, des passerelles au-delà du cas même de Bernice. Alors évidemment, les idées qu'on retrouve pendant tout le siècle qui font une unité, ça va être eh bien, précisément celle qu'on vient de voir, donc c'est parfait, ça m'évite de détailler, qui est tout ce qui tient autour du rôle des évêques et de l'autorité du corps des pasteurs. Hein, donc ça, effectivement... Évidemment, on le retrouve pendant tout le siècle. Donc, on vient de le voir avec le Concile d'Embrun. Je rappelle juste la réactivation régulière au gré des crises des années 30, puis 1750, de ce thème-là. Alors, au moment qui nous intéresse, en 1787, ce thème de l'Église ancestrale, enfin, lorsqu'il est relié à l'Église ancestrale, est un motif d'agacement pour Bernice, en réalité. Il tourne ça presque en ridicule. Et il écrit, ce qu'il y a de remarquable, c'est que dans le siècle où l'irreligion se manifeste sans ménagement, on veuille rappeler l'Église catholique aux temps évangéliques, où elle ne faisait que naître, où elle n'était composée que d'un petit nombre de fidèles pauvres et obscurs, qui formaient à peine une société visible, tandis qu'elle embrasse aujourd'hui la plus grande partie de l'Europe et étend ses branches dans toute la terre habitable. Montmorin n'y croit pas non plus. Et surtout, voit derrière cet excès de rigorisme un calcul essentiellement politique. On devrait être très étonné de cette marche si on ne savait pas que tout ce qui se fait, loin d'avoir pour motif le rigorisme, ne dérive que de l'oubli des principes et de l'envie de dépouiller l'Église. J'espère que nous la préserverons de cette contagion. Le risque, c'est la désintégration. Le schisme d'abord au nom de la réforme, et là, les ministres et ambassadeurs ne se privent pas de convoquer le parallèle avec Luther et Calvin, régulièrement sur la sécularisation des bénéfices, là encore en Allemagne. J'ai pas le temps de parler des autres thèmes, comme par exemple la question du culte du Sacré-Cœur, mais peut-être par écrit, je sais pas s'il y aura un écrit. Et puis sur les liens intellectuels, alors là, qui sont les milieux où ont d'ailleurs gravité un petit peu différents ambassadeurs de France à Rome. Tout ce qui a été étudié par Mario Rosa, Bruno Neveu, Pietro Stella, la filiation intellectuelle, mais d'autres y reviendront peut-être. Donc en conclusion... J'évoquerai la réponse du 19 mai 1791 des évêques constitutionnellement élus au pape, que vous connaissez peut-être. Nous oserons vous demander, avec un Saint-Père moderne canonisé par Maître Camus et déjà connu de votre sainteté, quid est papa? Qu'est-ce que le pape? Qu'était-il avant la Révolution? Le centre d'unité, le gardien de la discipline, le juge naturel de nos débats, le défenseur et le vengeur né des canons. Mais qu'est-il aujourd'hui? Un prêtre égaré par les préjugés ultramontains et l'aristocratie française, un libelliste incendiaire, perturbateur du repos public, un simple officier de morale, évêque métropolitain du département du Tibre. Voilà celui qui nous suspend au XVIIIe siècle, et les droits de l'homme sont proclamés, et la juridiction universelle est découverte. Bref, les craintes de Bernice sont plus que justifiées. On pense aussi à l'épigramme composée à l'origine contre Alexandre VI et qui a circulé de nouveau lorsque le cardinal Braschi a choisi le nom de Pie VI, Semper sub sextis perdita Roma fuit. On peut revenir pour finir alors aux dernières pages de l'article de Bruno Neveu sur le pontificat romain, alors ce petit jeu de l'histoire est hypothétique. Ce qu'il voyait, au cas où la révolution n'aurait pas eu lieu, le délitement progressif de la romanité qu'il décrit ressemble à s'y méprendre, à l'image de l'arbre déraciné, un peu lourdement peut-être, esquissé par Bernice. Pourtant, la réaction vive que constitua la bulle à Auctorem Fidei n'était pas en effet une option envisageable pour le cardinal français qui pariait sur une solution plus politique en réalité. Le paradoxe est frappant. L'écroulement de la monarchie, écrit Bruno Neveu, marque la fin pour le Saint-Siège d'une période d'esclavage. On comprend mieux alors comment en effet la bulle est à la fois un début et une fin. Je vous remercie.